Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je suis avec Christophe Thibault. Christophe, bonjour.
Bonjour.
Comme c'est la première fois que tu passes sur le podcast, est-ce que tu peux te présenter en une minute, Christophe ?
D'accord. Donc, Christophe Thibault, je travaille chez Octo Technologies, qui est un cabinet de conseil en architecture, en méthode. Je fais aussi du delivery. Mon travail, c'est d'aider mes clients à améliorer leurs pratiques de dev. Donc, ça passe par de l'accompagnement, de la formation, de la facilitation aussi et du conseil.
Et ce qui m'a donné envie qu'on échange pendant sur cet épisode, c'est que tu me dis, tu avais un point de vue que je trouvais intéressant. Tu disais, il faut arrêter de parler de dette technique. J'ai plus envie de parler de dette technique. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est une notion qui commence à devenir mainstream, qui commence à être comprise, sur laquelle on peut s'appuyer pour argumenter. Et toi, tu viens et tu dis, non, faut arrêter de parler de ça. Ah, vas-y, explique-nous.
Ouais, alors, je sais pas si j'ai envie de dire, faut arrêter de parler de dette technique parce que, j'ai du mal à me concevoir comme quelqu'un capable d'arrêter les gens de parler de quelque chose, mais en fait, j'ai manifesté l'intention récemment avec mes collègues et avec un cercle un peu plus large de personnes avec qui je travaille, d'arrêter de parler de la dette technique au sens 2 de la dette technique. Alors, je vais d'abord parler du sens 1, qui est le sens que Warren Cunningham, quand il a forgé cette expression dette technique, a donné à l'expression. Une équipe fait un projet et elle s'endette techniquement, c'est-à-dire qu'en fait, elle déroge à son état de l'art pendant un petit moment, mettons une semaine ou deux ou un mois, en vue d'atteindre un objectif intermédiaire. Et ensuite, elle paiera sa dette, c'est-à-dire qu'elle remettra son système à l'état de l'art, tel qu'elle se l'est défini pour le constituer. Donc, par exemple...
Okay. Dans cette définition, ouais. C'est un choix conscient de quelque chose qu'on ne fait pas par rapport à un référentiel donné, pour ensuite le récupérer.
C'est ça. En fait, exactement. On contracte une dette, c'est-à-dire qu'on met notre état de l'art légèrement en déficit. On prend, le premier outil qui nous vient pour finaliser une démo. Ensuite, on fait cette démo, on a du succès, on trouve des clients potentiels et on remet notre produit à l'état de l'art. Et ça s'appelle s'endetter techniquement. Et c'est une opération non seulement saine techniquement, mais indispensable à toute équipe agile. Le deuxième sens de la dette technique, c'est de dire dans cette base de code qui n'a pas eu de test unitaire pendant toutes ces années, qui n'a pas été relu, qui a été faite de briques et de procs sur lesquelles on a accumulé des technologies, des frameworks, maintenant qu'il faut la reprendre, c'est difficile parce qu'il y a de la dette technique. Alors ça, pour moi, poser le diagnostic, cette application est endettée techniquement, en fait, c'est une façon de dire cette application, elle n'est pas à l'état de l'art. Elle a été faite sur des procédés qui ne sont pas à l'état de l'art. Le problème, quand je dis ça, c'est que je ne mentionne pas de quel état de l'art je parle. Donc, je vais prendre un exemple. Je croise sur mon chemin, chez un client, un programme qui a été écrit en C en 1982. Donc, je regarde ce programme, il fait quelques tâches... modérément complexe. Mais évidemment, il le fait avec l'état de l'art du langage C en 1982. Et donc, tant que je veux rien faire de ce programme, tant que j'ai pas des intentions par rapport à ce programme, comme par exemple de le faire évoluer, de le remplacer, je peux pas dire il est endetté techniquement. L'état de l'art en 1982, c'était de prendre le langage C et de coder des choses avec ce langage. Et bien que je sache qu'aujourd'hui, si je prenais par exemple Ruby ou Python ou n'importe quel autre langage, j'aurais des facilités avec ce langage qui rendraient en comparaison le langage C obsolète, la solution en C obsolète, je peux pas affirmer que ma solution en C est endettée techniquement tant que c'est pas dans un contexte donné pour un état de l'art donné. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire avec et dans quel contexte technique je me place par rapport à ce programme. Donc, pour résumer, dire d'une solution qu'elle est endettée techniquement, comme ça, sans autre élément de contexte, c'est comme si je disais, cette appli, c'est pas de la qualité. Alors, ça pose la question, c'est quoi la qualité? Si je vais, je sais pas moi, dans un restaurant chic à Paris où je vais payer mon repas 300 euros, on va me dire je vais dans un restaurant de qualité. Mais chez McDonald's, il y a aussi une direction de la qualité. Donc la qualité, ça dépend du contexte. Et donc pour moi, l'état de l'art, ça dépend également du contexte.
Moi, je te rejoins, en fait, quand tu as dit on accepte temporairement une baisse de niveau par rapport à un état de l'art donné, ça, ça a tout de suite fait tilt sur le point, effectivement, mais est-ce que l'équipe a bien défini son état de l'art?
Exactement.
Et ça vient sur ça, et ça repose aussi la question du temporaire, en fait. Ce que je n'aime pas, moi, derrière le concept de dette technique, c'est son côté... c'est devenu normal quelque part d'avoir de la dette technique, en fait. C'est le côté, c'est l'autre pièce, enfin l'autre revers de la pièce du fait que ça devienne mainstream. C'est que finalement aujourd'hui on s'habitue et tout le monde trouve ça normal et on n'est plus dans quelque chose de temporaire. Moi, je soutiens que je suis assez en ligne avec toi. De manière temporaire, ça peut être utile et même il y a des fois où c'est une question de survie pour le projet.
Absolument.
Et à partir de là, ben c'est bon à prendre. Le problème, c'est deux choses. C'est quand tu ne le maîtrises pas. Quand tu n'en as pas conscience, et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas conscience qu'ils sont en train de faire de la non-qualité. Mais ce que tu amènes aussi, ce qui est intéressant, c'est oui, mais est-ce que vous avez seulement défini ce qui était la qualité? Tu parlais des tests, c'est intéressant parce que souvent je le vois dans des DOD, des Definition of Done, c'est-à-dire l'ensemble des critères qui permettent de savoir si, si on a atteint le boulot, si le boulot est fait. Mais dans les faits, quand tu demandes, c'est pas toujours qu'il y a des tests, quoi.
Bien sûr. Mais en fait, je pourrais très bien commencer un projet avec trois collègues, et puis on définit l'état de l'art pour notre projet, on en décide, on fait un cadrage de projet, et on dit, c'est un projet, il va tenir, le code de ce projet va tenir sur deux scripts de 40 lignes, voici comment on va le mettre au point, on va faire des revues de code, est-ce qu'il y aura des TEU là-dessus? Non, on pense que c'est pas nécessaire, et on a défini l'état de l'art, c'est parfait. Donc la définition 1 de dette technique, elle tient toujours pour moi. C'est un procédé très utile, c'est une heuristique qui marche très très bien, qui est même indispensable pour innover, je pense. La définition 2, c'est simplement le mot générique qu'on commence à utiliser dès qu'on veut dire bah, « c'est pas de la bonne qualité ». Le problème quand on dit « c'est pas de la bonne qualité », c'est qu'on est vague, en fait. Et un deuxième inconvénient, une deuxième chose que j'aime pas dans ce terme dette technique, c'est que d'abord, traduit une financiarisation de la profession. Ça n'a aucun sens de dire cette application, les développeurs sont en train de l'endetter, comme s'ils devaient quelque chose. Les développeurs, ils font leur boulot, ils s'améliorent, ils se bricolent en état de l'art au début du projet. Peut-être qu'il y a aussi des standards chez leurs clients. Enfin, tout ça fait l'objet de conventions ensemble. Il ne s'agit pas de dire que... Alors, j'ai lu dans un article récent, un article très succinct et très médiocre à mon sens, qu'on estimait à 300 milliards de dollars le coût de la dette technique dans tous les systèmes informatiques. Et l'auteur ajoutait qui était dû à des développeurs en train de travailler sur du bad code, du code mauvais. Donc là, je pense qu'on atteint le pompon. On dit, bon, bah, y a de la dette technique, c'est-à-dire de la non-qualité, c'est-à-dire du mauvais code. Pour moi, c'est pas travailler comme un ingénieur que de parler comme ça.
C'est comme... Après, il y a quand même des tu vois, regarde, j'ai testé il y a pas longtemps, j'ai réessayé Code Climate, j'ai fait tourner SonarCube sur des projets pour voir un petit peu ce qu'il me donnait. J'ai découvert avec surprise que maintenant, ils te chiffraient ta dette technique. C'est-à-dire que derrière chaque anomalie, parce qu'une anomalie renvoie à un référentiel. Donc, derrière chaque anomalie, ils estimaient la durée que tu allais mettre à corriger le truc. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et en regardant certains projets, je me suis dit, mais en fait, il est même possible de générer... Tu vois, j'ai vu des projets en le faisant tourner sur plein de projets. J'ai vu des projets où la quantité de dette générée, parce qu'ils te le chiffrent en temps, était supérieure au temps qu'il avait fallu pour faire le projet. Et je me suis dit, c'est intéressant de voir ça, quoi. Tu vois,
tu sais, Benoît, je pense qu'un jour, il se trouvera des consultants pour inventer un outil qui chiffrera le coût en euros ou en dollars. Des sourires qu'on n'a pas pu s'adresser en réunion, ou bien des mots qu'on n'a pas dit, ou bien... des soupirs qu'on n'a pas poussé assez fort. C'est n'importe quoi. La dette technique, c'est une métaphore. C'est une métaphore que Warren Cunningham a probablement trouvée chez Weinberg, d'ailleurs, parce que dans Quality Software Management, Jerry Weinberg parle de dette de conception. c'est-à-dire un moment où on fait un peu souffrir sa conception pour atteindre un objectif intermédiaire. Et donc c'était une métaphore, hein. Donc voilà, quelque chose d'assez commode pour convenir d'une certaine heuristique entre nous. Et il y a des gens évidemment qui l'ont instrumenté, outillé pour la transformer en système. Mais ce système, il est totalement faux. Comme sur quoi je baserais le coût en euros ou en dollars de la dette technique? Sur quoi? Sur le coût du développeur? C'est quoi le coût du développeur? C'est quoi le coût de d'une non-qualité que je n'ai pas besoin de corriger?
C'est une excellente question. Et je te propose de conclure là-dessus, parce que la boîte donc de voilà, temps est passée.
Pour conclure, je conviens dans mon travail, avec moi-même, d'abandonner la notion de dette technique numéro 2. Je garde la notion de dette technique numéro 1, je n'utilise plus la dette technique dans le sens général.
Je te remercie, Christophe, d'être venu aujourd'hui. Si les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent venir où? Sur ce que tu écris?
Ils peuvent venir sur le blog Octo, où je ne vais pas tarder effectivement à écrire sur ce sujet, parce que je pense que ça vaut le coup d'être dit.
Je te remercie encore d'être venu.
Je t'en prie.
Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as aimé cet épisode. Je t'invite, s'il t'a plu, à nous mettre 5 étoiles, hein, quitte à y être, autant mettre le maximum, dans l'application de podcast de ton choix. Et te marre pas, Christophe, derrière. Ça sera utile pour faire connaître le podcast et diffuser plus largement ce message. Je te remercie et je te dis à demain.